grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous faisons un gros plan sur la hausse du prix de l'électricité. Nous l'avons appris mardi dernier à travers la CRE, la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau. Cette augmentation entre en vigueur le 1er juillet 2014. Les concernés sont les grands consommateurs, à savoir les entreprises, mais d'autres sont également concernés directement ou indirectement. La hausse est-elle progressive? Que deviennent donc les activités des grandes entreprises? Nous le saurons tout à l'heure avec nos invités. Et ses invités sont Mokhtar Touré de la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau, Madame Koulibaly Salimata Diarra de l'ASCOMA qui va nous rejoindre, et Baba Dao du Syndicat national de construction civile des mines et de l'énergie. Vous avez Sira Bachili au micro, Peting Diarra à la technique. Premier volet de ce débat, la problématique de la hausse. Nous allons donc dire merci à vous, nos chers invités. Et la question que tous les Maliens se posent aujourd'hui est le pourquoi de cette hausse de l'électricité, la quatrième en 2 ans, si je ne me trompe, Monsieur Touré, vous qui êtes de la régulation de l'électricité et de l'eau.
Très bien, merci beaucoup, madame. Permettez-moi tout d'abord de remercier la radio Tamani.
Studio Tamani.
Le studio Tamani pour nous avoir offrir cette opportunité face aux usagers des services publics pour de plus amples détails sur une décision qui s'imposait et qui venait d'être prise et annoncée. Je comprends parfaitement les préoccupations des usagers chaque fois qu'il est question de réaménagement tarifaire, parce que l'électricité en soi est un des services essentiels de la vie de tous les jours, de toutes les activités économiques, j'allais même dire socio-économiques, et fort heureusement elle est encore disponible au Mali.
Ouais.
Mais quand
à quel coût?
À quel coût, je comprends. Mais quand on regarde très bien ce service, il convient d'abord de rappeler que, bien que service public essentiel, l'électricité est d'abord et avant tout un service marchand. Et comme tel, elle a un coût qu'il faut supporter, financer et assurer en permanence quand on veut maintenir le service et surtout quand on veut le développer pour le répandre partout où cela est nécessaire. Et Dieu sait aujourd'hui qu'en termes de besoin d'électrification, nous avons un taux d'électrification actuel qui n'a pas encore atteint 40%. C'est dire que plus de 60% des Maliens, de nos concitoyens, aspirent encore à avoir l'accès à ce service essentiel. Et comme tout service, je disais, marchand, on a besoin de financer ce service. Mais quand il arrive que les contraintes qui pèsent sur le système électrique et sur les enjeux du développement de ce service demeurent tellement pesant au point de compromettre même le dysfonctionnement du système électrique, il faut prendre le temps d'analyser globalement la situation pour voir ce qu'il y a mieux à faire.
Est-ce qu'il faudrait comprendre par là qu'il y a manque de moyens au niveau des DMSA?
J'en viendrai. Il n'y a pas que cela. Manque de moyens au niveau des DMSA, il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les contraintes globales affectant le secteur ont plus ou moins plombé les finances d'EDM et font apparaître un besoin important de financement pour assurer seulement le maintien de ce service et son développement dans le temps. Et naturellement, puisqu'il faut financer le développement du service, la question naturelle, c'est comment. Et le comment ne peut pas aller sans mettre en œuvre les leviers classiques qui doivent soutenir le développement d'un service marchand, notamment à travers une tarification appropriée, une réflectivité appropriée des coûts de production sur le tarif, des subventions, certainement, et peut-être d'autres moyens, on aura l'occasion d'en parler. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que le service soit déjà garanti.
D'accord, on va y revenir, juste le temps de faire réagir les autres. Madame Koulibaly Salimata Diarra de l'ASCOMA vient de nous rejoindre. Est-ce que selon vous, cette nouvelle tarification est justifiée en tant que consommateur?
Vous savez, je ne vais pas avoir une langue de bois ici. Voilà au moins 3 ans. Quand le FMI arrive au Mali, le FMI rencontre souvent le Conseil national de la société civile dont je suis membre. Donc ça veut dire que depuis que nous sommes dans la crise, à tout moment, le FMI rappelle qu'il nous faut aller vers de nouveaux tarifs. Et par 3 fois, quand nous les avons vus, j'ai répondu ceci. J'ai dit, demandez aujourd'hui au Mali d'aller vers l'augmentation des tarifs d'électricité. Cela veut dire que vous voulez créer une autre crise dans notre pays. Parce que les populations sont dans une souffrance énorme. Et on connaît aussi le pouvoir d'achat des Maliens. Donc nous demander aujourd'hui d'aller vers l'augmentation de prix n'est pas normal. Je suis étonné, je leur ai dit, je poursuis. Que vous alliez vers ça, c'est-à-dire la Banque mondiale, elle nous appuie avec à coup de milliards pour équiper, renforcer EDMSA. Dès que cela est fait, vous arrivez, vous dites qu'il faut augmenter les tarifs. Nous ne comprenons pas que dans cette crise, on nous demande cela, je ne le comprends pas. Et chaque fois, j'ai eu donc des propos assez durs avec eux. Et ils sont partis. L'augmentation d'aujourd'hui, nous, on ne saurait l'appuyer. Nous l'avons dit, nous le répétons, pour la simple raison que je viens d'évoquer. Vous savez, le Malien est un grand encaisseur. Il faut le leur rendre. C'est des gens qui encaissent énormément. Donc, il y a des moments où il faut faire très attention. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, est peut-être obligatoire pour l'État, il faut le dire. Parce que par ailleurs, nous avons aussi d'autres informations. Mais pour les populations, c'est très dur. Donc nous, on ne saurait que supporter nos populations et dire que ce n'était pas le moment de nous faire ça.
D'accord, on va essayer un peu de comprendre un peu cette nouvelle tarification avec vous, M. Ndao. Vous êtes du syndicat des mines et de l'énergie, vous êtes travailleur également à EDMSA. Et pouvez-vous nous expliquer quelle est concrètement cette nouvelle tarification et qui est concerné?
Bonsoir tout le monde. Et nous remercions également le studio Tamani de nous avoir donné cette occasion pour pouvoir nous exprimer en ce qui concerne la hausse tarifaire. Vous savez, l'énergie du Mali, dont je suis l'un des secrétaires du syndicat, et nous, en fait, avec la direction, nous avons connu pas mal de choses. Premièrement, à l'énergie du Mali, nous travaillons avec beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes, cela a été reconnu par la CRE. Ce que nous dépensons, c'est-à-dire nos matières premières, le carburant, les dépenses en globalement, nous ne rentrons pas en position de ce que nous faisons. Donc l'énergie du Mali est endettée dans toutes les banques de la place. Ce qui fait que nous, les travailleurs, ne sommes même pas dans les conditions idoines du travail.
Donc, c'est ce qui expliquerait le fait de se rabattre sur les clients pour la hausse du tarif.
Mais madame, c'est pour vous dire que nous sommes un commerçant.
Oui, vous allez réagir, monsieur Touré, après. Oui.
En principe, un commerçant, si tu vas peut-être acheter ta marchandise ailleurs, tu viens avec ta marchandise, personne n'ose vendre cette marchandise en perte. C'est ce qui se passe actuellement à l'énergie du Mali. Et cela est reconnu et par l'État et par certains consommateurs.
Malgré la subvention.
Malgré la subvention, bien sûr, malgré la subvention. Au cours
madame,
du débat...
Si vous permettez...
Au cours du débat,
on le laisse finir, d'accord. Après vous allez réagir, monsieur Touré.
Au cours du débat, je crois la CRE qui est habilitée vraiment. Bon, comme vous le savez, c'est la commission de régulation de l'eau et de l'électricité. C'est elle qui est habilitée à voir tout ce que moi je viens de dire. Si réellement... Il faut une augmentation tarifaire pour que au moins l'énergie du Mali aussi puisse faire sortir sa tête de l'eau. Nous, nous souffrons.
Oui, monsieur Touré, les travailleurs souffrent à EDMSA. Les clients aussi se plaignent. Qu'est-ce qui se passe?
Mais, vous voyez, je n'ai même pas eu besoin de vous dire que la problématique de fixation des tarifs est toujours confrontée à un problème d'arbitrage entre des paradoxes. Le paradoxe des tarifs reflétant les coûts, le paradoxe de l'accessibilité du service et surtout la manière la mieux appropriée pour protéger les couches les plus vulnérables, les couches les plus démunies. Et chaque fois qu'il est question de fixer des tarifs, avec l'ensemble des partenaires, avec les décideurs, nous sommes obligés de prendre soin, de mettre sur la table les préoccupations de toutes les parties. Et il arrive tout naturellement que nous sommes confrontés à un problème d'arbitrage entre les intérêts des parties. Je comprends parfaitement les préoccupations évoquées par Mme Koulibaly, qui connaît parfaitement les enjeux du développement du secteur électrique. Et qui a même souvent participé avec ses autres collègues des associations, des autres membres d'associations de consommateurs, à soutenir certaines actions à l'endroit de la défense des intérêts des usagers. Mais ce qu'il faut retenir, et qui est le plus important, c'est qu'il faut d'abord assurer l'existence même du service dont il est question. Pour qu'on parle de préserver l'intérêt des usagers ou de préserver le pouvoir d'achat des usagers ou de faire en sorte que les usagers n'encaissent pas, il faille déjà qu'ils aient accès au service de l'électricité. Vous pouvez vous amuser à faire un sondage auprès de toutes les catégories socio-économiques et socio-professionnelles du pays. Tous les usagers vous diront qu'ils ont le plus besoin, d'abord et avant tout, qu'on assure la continuité de la desserte. Les questions de tarifs viennent après. Donc, quand le secteur arrive à une situation où même l'existence de ce service est menacée, il faudrait que les uns et les autres, et en particulier les acteurs qui participent plus ou moins au processus des décisions, comprennent qu'il faut qu'on prenne ses responsabilités pour prendre les décisions qui s'imposent. D'accord. En vue de garantir la continuité du service. Je voudrais rectifier, avant de vous laisser donner la parole aux autres collègues, je voudrais rectifier rapidement les commentaires introductifs que vous avez eu à faire. Il n'y a pas eu d'augmentation, 4 augmentations tarifaires pendant 2 ans. Au contraire, pendant 3 ans, il y a eu des paiements massifs de subventions pour soutenir justement la continuité et pour garantir l'existence du service public de l'électricité.
D'accord.
112 milliards en 3 ans pour éviter qu'il y ait des augmentations tarifaires. Mmh. Et cela, il faut le noter. Et la dernière augmentation tarifaire a eu lieu en 2009. Donc il y a presque 5 ans.
Donc combien de tarifications en combien d'années?
En combien d'années? Si on doit faire bref rappel historique des ajustements tarifaires, je dirais que en presque 10 ans, en presque 10 ans ou plus, il y a eu en 2009 une augmentation tarifaire, en 2005 des ajustements, des réaménagements. Mais avant ça, il y a eu plutôt des baisses tarifaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les facteurs qui...
Monsieur Touré, on va devoir vous couper, on va y revenir.
D'accord,
juste,
je vous en prie. Donc,
le temps d'observer une minute de pause.
D'accord.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foco, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Vous écoutez le studio Tamani sur 24 radios à travers tout le Mali. L'émission s'appelle Le Grand Dialogue. Le thème du jour, la hausse du prix de l'électricité. Nos invités, Mokhtar Touré de la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau, Koulibaly Salimata Diarra de l'ASCOMA, Association des consommateurs, et Babandao du Syndicat national de construction civile des mines et de l'énergie. Deuxième axe de ce débat, les conséquences de cette hausse du prix de l'électricité. Alors, on le dit couramment, il n'y a pas de feu sans fumée. Cette nouvelle tarification a forcément des conséquences, Madame Koulibaly, ce qui nous amène à nous interroger, est-ce qu'elle n'est pas, cette tarification, une tarification de trop pour vous, les consommateurs?
Mais, je voudrais d'abord, je suis venu un peu en retard, je ne me suis pas fait excuser, je voudrais le faire à présent.
D'accord.
Et vous dire que nous avons certainement des craintes, parce que c'est vrai que ce qu'on nous a montré, c'est que la tranche sociale, qui va de 50 à 100 kilowatts, ne devrait pas être touché par l'augmentation tarifaire. Donc, les couches vulnérables...
Les grandes entreprises. Nous avons même invité les entreprises, mais malheureusement, elles ne sont pas venues.
Voilà,
ouais.
Donc, nous, notre crainte, bon, si cela est fait, et qu'on aille vers... Nous voudrions qu'on aille vers... qu'on touche vraiment au fonctionnement de EDMSA. Parce qu'à EDMSA, les fraudes qu'il y a sont accompagnées, nourries par les agents de EDM. Je tiens beaucoup à dire ça. Il faut que quand les consommateurs doivent mettre la main à la poche à un moment donné pour renforcer un secteur vital, au niveau de la gestion et du fonctionnement de EDM, il faut qu'il y ait la rigueur, la plus grande rigueur aujourd'hui. Mmh. Il faut qu'à leur niveau... on nous donne les éléments convaincants comme quoi EDM aussi, dans son fonctionnement, sera touché. Parce qu'il y a problème à ce niveau. Mm-hmm. Il faut que la poire soit partagée entre nous, mm-hmm. en deux, sinon en trois. Mm-hmm. Donc ce n'est pas normal qu'on aille toujours vers le maillon le plus faible pour demander que nous, on accepte pour le pays d'augmenter les tarifs. Si au niveau gestionnaire, les dispositions... rigoureuses ne sont pas prises pour que les choses aillent mieux. Ils savent de quoi nous parlons. Nous l'avons discuté de long en large. Nous l'avons dit au ministre en charge, Franck Ali, quand il nous a invités à le rencontrer, il y a de cela peut-être 2 ou 3 mois. Et nous l'avons dit le 19 juin seulement au président de la CRE que nous ne sommes pas d'accord, que nous soyons toujours le maillon faible touché par les réajustements.
Alors,
vous savez, les suites, on rentre dans le mois de carême. Mm-hmm. Même nous épargner du mois de carême n'est pas fait. Ce n'est pas normal. Ça a été notre souhait le plus fort. Nous avons demandé au moins laisser le mois de carême tranquille pour les populations. Après le mois de carême, vous pouvez y aller. Mais ils ont dit qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils sont obligés de l'annoncer dès à présent et de commencer dès à présent. Nous sommes très heureux de savoir que nos couches vulnérables sont épargnées. Mais nous craignons que quand les grandes entreprises acceptent et participent même aux tarifications, parce qu'il semble qu'ils ont participé, ils ont arrêté ensemble les choses avec eux, il ne faut pas qu'après, les produits qu'ils donnent sur le marché soient vendus avec surenchère pour rattraper ce qui est donné à EDM. Voilà la crainte du consommateur. On donne d'une main et on prend de l'autre.
Alors, Monsieur Touré, vous voulez réagir par rapport à ça ?
Oui, merci, madame. Je souhaite juste donner des apaisements à madame Koulibaly. Je sais que c'est avec beaucoup d'insistance qu'elle avait attiré l'attention de la CRE et des autorités sur le moment approprié à choisir pour annoncer les décisions tarifaires. Mais ce que je dois dire, et je pense que EDM le confirmerait, c'est que le mois de carême est épargné. Et parce que
ça veut dire que ça va commencer.
Ça va commencer le 1er juillet, mais les premières factures tomberont probablement deux mois après. Mais vous verrez qu'il y a
un
décalage.
Avec un rappel de deux mois.
Non, pas forcément. Il y a toujours un décalage entre la période de consommation et la période de facturation. Et du reste, même entre la période de facturation et les délais de paiement qui sont accordés aux usagers. Je ne vais pas faire un plaidoyer pour le service commercial d'EDM qui aurait pu aussi nous rejoindre.
Qui n'a pas voulu répondre à notre invitation également, on va le préciser. Oui.
Mais je sais que ces mesures étaient destinées à être mises en œuvre dès le 1er juin. Et c'est justement en tenant compte de toutes les contraintes que Mme Koulibaly a évoquées et d'autres contraintes, et qu'il a été décidé de différer d'un mois. Et je pense que si on veut apporter aussi une réponse appropriée aux besoins de financement d'un service, il faut le faire à temps. Il faut le faire à temps, parce que chaque mois qui passe, chaque année qui passe, sans les investissements, sans les mesures de financement appropriées, contribue à amplifier les problèmes. Et je suis persuadé qu'aucun usager n'accepterait que les problèmes de dysfonctionnement perdure ou s'amplifie. Et nous avons naturellement pris soin, comme on a rencontré les associations de consommateurs, pris soin de rencontrer beaucoup d'usagers et des catégories socioprofessionnelles diverses. Et le message est presque le même partout. C'est vrai, vous voulez faire des ajustements tarifaires, ok, mais faites en sorte que le service soit disponible. C'est ça le plus important pour nous. Et chaque fois qu'il est question aussi de faire des réaménagements tarifaires, cela ne se fait guère sans prendre soin de faire des arbitrages en vue de préserver au mieux l'intérêt collectif, y compris l'intérêt des usagers.
Alors, M. Babandao, vous qui êtes du syndicat des miniers de l'énergie, dites-nous, quel est votre avis sur tout cela ?
Bon, merci, madame. Je voudrais d'abord répondre à Mme Koulibaly qui vient de dire que la fraude à l'énergie du Mali est nourrie par les travailleurs. Je suis un peu étonné d'entendre ces propos. Si elle-même, elle le sait très bien, vraiment ça nous fera plaisir qu'elle nous dise réellement ces travailleurs qui sont en train d'encourager la fraude à l'énergie du Mali. Parce que l'énergie du Mali est en train non seulement de lutter contre les fraudeurs de l'électricité et de lutter à l'interne. Donc les travailleurs, nous sommes associés à ce travail-là.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de fraude ?
Bien sûr, il y a des fraudes. Il y a des fraudes, je le sais très bien. Mais est-ce que c'est les travailleurs qui font ces fraudes ?
Ce sont les agents de EDM.
Je suis étonné, madame.
Mais les fraudeurs, peut-être qu'ils sont aidés par les agents.
Et ils tarifient.
Je suis étonné d'entendre ce propos, mais je dis à madame, si elle connaît les travailleurs qui fraudent, que ce soit la direction ou nous, les syndicats, nous serons très heureux de l'accueillir.
Mais qu'est-ce que le syndicat peut faire à ce niveau, au cas où vous découvrez un tel réseau?
Ils le savent mieux que quiconque.
Ce que le syndicat peut faire, d'abord, il y a des règlements intérêts à l'énergie du Mali. Un travailleur qui s'adonne à la fraude est réprimé. Cela se doit, conformément au règlement intérieur à l'énergie du Mali.
Mais est-ce qu'on ne pousse pas finalement les entreprises à aller vers cette corruption avec cette nouvelle tarification?
Pas du tout.
Le flanc n'est pas prêté?
Non, le flanc n'est pas prêté. Parce que personne, en ce moment-là, n'a intérêt à ne pas faire cette augmentation tarifaire. Monsieur Touré vient de le dire. Le consommateur n'a pas intérêt. Parce qu'ici, au Mali, nous aimons tellement à avoir le courant 24 heures sur 24 chez nous. Alors ailleurs, tel n'est pas le cas actuellement. Mais à quel prix?
Non, de grâce, moi, je ne voudrais pas que vous dites ça. D'autant que tout ce que nous subissons en termes de délestage avec EDM, c'est énorme.
Madame, pas comme
vous
ailleurs.
Vous n'avez jamais vu les gens marcher. Vous ne les avez jamais vu faire certaines manifestations. Madame, ils ont encaissé.
Madame, pas comme au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina.
Ce que je voudrais quand même rappeler, ce que je voudrais rappeler, c'est que le délestage est le signal d'un dysfonctionnement, d'une perturbation profonde du système électrique, d'un déséquilibre de l'offre et de la demande. Et chaque fois qu'il y a délestage, ça veut dire qu'auparavant, il y a eu une série de problèmes affectant l'équilibre de l'offre et de la demande. Et tout le monde sait que pour éviter que cet équilibre soit rompu, il faut assurer en permanence le renforcement de l'offre. Et ce renforcement ne peut se faire qu'avec un coût, qu'avec un financement des coûts de production, un financement du développement des moyens de production, des moyens de desserte. Et c'est pourquoi la question tarifaire qui est au cœur de cet enjeu doit être de plus en plus observée et acceptée comme une question essentielle qui doit passer naturellement comme les actes de gouvernance classiques, quotidiens. Je suis souvent étonné, mais je comprends, que chaque fois qu'il est question de réaménager les tarifs à la hausse, les gens sont offusqués. Les gens s'interrogent. Mais le service dont il est question est un service très coûteux. Est un service qui est largement soutenu par le gouvernement. Je viens de rappeler les subventions qui ont été accordées ces trois dernières années. 112 milliards. C'est 112 milliards au détriment d'un autre secteur. C'est 112 milliards, peut-être qui auraient pu servir à autre chose. Mais c'est 112 milliards qui ont été certainement financés, non seulement par des ressources spécifiques diverses, mais aussi par des impôts collectés auprès de l'ensemble des populations, parmi lesquelles il y a encore au moins 60% qui n'ont pas accès aux services. Est-ce que vous accepterez que tout le temps, le gouvernement continue à subventionner un service dont une seule partie, une partie inférieur à la moitié des populations bénéficient? Je crois qu'il y a là aussi une question d'équité à régler.
Alors, on va observer quelques secondes de pause, juste le temps de faire passer quelques messages.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
L'émission Le Grand Dialogue du studio Tamani revient sur la nouvelle tarification de l'électricité qui sera effective le 1er juillet prochain. Pour en parler, nous avons fait appel à Mokhtar Touré de la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau, Madame Koulibaly Salimata Diarra de l'ASCOMA, Association des consommateurs, Babandao du Syndicat national de construction civile des mines et de l'énergie. Le dernier point que nous abordons maintenant est relatif aux alternatives. Mais avant d'y arriver, moi j'aimerais vous demander, M. Touré, par rapport à l'incidence de cette tarification, il y a l'économie qui est en jeu quand même. Les activités économiques ne seront pas revues à la baisse?
Je ne crois pas, je ne crois guère. Parce que aucune décision du genre ne se prend au hasard et sans préalablement analyser et les conséquences et l'impact sur l'ensemble plus ou moins des activités économiques et des secteurs économiques. Vous avez remarqué que les ajustements tarifaires impactent essentiellement les unités industrielles ou les gros consommateurs, la moindre tension. Mais préalablement et en rapport avec le ministère de l'Industrie, nous avons eu à participer à une étude ayant pour objet la définition ou l'identification du poids des charges d'électricité sur le budget des unités industrielles. Je ne vais pas vous dévoiler tous les détails de cette étude-là, mais ceux qui ont demandé commandité cette étude ont été surpris par les résultats. Et il apparaissait clairement que la première préoccupation des industriels et des gros consommateurs, c'était d'abord et avant tout la disponibilité de l'électricité. Et la question du tarif venait en quatrième position des préoccupations. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la moindre tension, les unités industrielles au niveau du Mali accèdent à l'énergie à des tarifs largement plus compétitifs que partout ailleurs dans la sous-région, sauf peut-être en Côte d'Ivoire. Et cela, on peut très bien le comprendre quand on regarde les moyens dont dispose la Côte d'Ivoire et le potentiel énergétique spécifique dont dispose la Côte d'Ivoire. C'est dire que, et nous l'avons annoncé, la compétitivité des entreprises serait aussi préservée dans certaines conditions. Mais il faudrait aussi que ces entreprises fassent jouer d'autres leviers susceptibles de leur rendre beaucoup plus performante et beaucoup plus efficace en termes de consommation énergétique. Et je crois qu'au-delà de toutes ces questions liées aux tarifs spécifiquement, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de leviers pour rendre les entreprises davantage compétitives.
Est-ce qu'elles ne vont pas essayer de compenser avec le prix en augmentant par exemple le prix de leurs produits pour le consommateur?
Je pense que ce ne serait pas une réaction responsable. Et ce ne serait pas une réaction équitable.
Madame Koulibaly, vous craignez cela, non?
Mais c'est ce que nous craignons, effectivement. Mm-hmm. On craint vraiment ça parce que, de façon générale, c'est ça. Les tarifs de transport augmentent, le consommateur paye. Les tarifs des produits augmentent, le consommateur paye. Aujourd'hui, seulement, il y avait une assemblée générale des bouchers qui sont en train d'envisager d'augmenter le prix de la viande avec le mois de carême. Oui. On a tout fait. Mais l'État, je pense que l'État s'est engagé, selon leur dire, je les ai appelés avant de venir, d'aller vers une subvention, ne serait-ce que pour le mois de carême, pour que nous puissions avoir ce mois-là un peu paisible.
Est-ce qu'il n'y a pas à la base un problème de demande croissante aussi?
Et de sortir, beaucoup de sorties du bétail, vers les pays voisins, qui font aussi que le marché est un peu dégarni.
Les bouchers décident d'augmenter les tarifs. Mais cela n'a rien à voir avec l'électricité, par
non,
exemple.
Je n'ai c'est pas
vous...
dit ça.
Non, je vous dis, non,
oui, c'est un exemple.
Mais c'est une manière aussi de vous dire qu'il n'y a pas que le problème de tarif de l'électricité, y compris vis-à-vis des unités industrielles. Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs qu'il faut regarder et qui peuvent influencer la performance et au niveau des coûts de production des unités industrielles. Et il leur appartient justement de s'atteler à identifier ces facteurs et à faire usage de tous les leviers susceptibles de les rendre plus compétitives, plus productives. Et je pense que même à ce niveau, le ministère de l'Énergie a essayé de développer et de vulgariser certains programmes
pouvant les assister dans une telle démarche. C'est les programmes d'efficacité énergétique qui ont même bénéficié de subventions et de financements encore sous forme de subventions. Et il appartient aux unités industrielles aussi de prendre leurs responsabilités en... Je sais qu'il faut beaucoup de choses pour se rendre plus compétitive et plus productive, mais il leur appartient davantage de mettre l'accent sur tous les autres leviers qui leur permettraient d'amoindrir le poids des charges d'électricité dans budget de fonctionnement.
Monsieur Babandao, est-ce qu'on peut dire que le Mali est en train de répondre aux exigences du FMI ? Madame Koulibaly l'avait évoqué un moment.
C'est bien ça.
Je ne crois pas. Permettez, je vais peut-être répondre très rapidement. Je ne souhaite pas beaucoup de temps. Bon, je laisse Babandao d'abord.
Vous allez parler après lui, oui.
Bon, en fait, en ce qui concerne nous, les travailleurs de la société énergie du Mali, nous ne nous voyons pas dans cet angle-là. Ce que nous voyons, en principe...
Mais le FMI intervient quand même.
Bon, ça c'est... Même si le FMI intervient en connaissance du cause. Le FMI intervient en connaissance du cause. Mm-hmm. Je le dis. Voilà. Bon, je vais laisser la parole au...
Moi, je crois que... c'est faire un mauvais procès.
Je pense que chacun est dans son rôle. Le FMI exige certain nombre de choses.
Le FMI, permettez-moi, madame, de vous dire simplement...
Non, si on regarde même...
S'il vous plaît, on le laisse...
Voilà, permettez-moi de vous rappeler que le FMI n'est ni plus ni moins qu'un partenaire du gouvernement. Le FMI n'exige rien et n'impose rien.
Il
n'y
a pas
rien.
De directive à ce niveau.
Le FMI ne donne aucune directive, ne donne aucune instruction spécifique au gouvernement. Le FMI, dans son rôle de partenaire au développement, a l'avantage de voir venir de loin les problèmes qui peuvent affecter gravement la stabilité économique du pays. Et généralement, il s'emploie à donner les conseils les mieux appropriés au gouvernement. Parce qu'il dispose d'outils lui permettant de faire cela de manière très professionnelle et de manière correcte. Et le gouvernement, en toute responsabilité aussi, a la faculté d'accepter ou de ne pas accepter les conseils qui lui sont prodigués pour améliorer sa gouvernance économique, pour améliorer ses stratégies de développement sectoriel. Ces mesures ont été profondément analysées par les acteurs institutionnels du secteur électrique, ont été partagées avec, pas seulement le FMI, avec d'autres partenaires au développement, la Banque mondiale et bien d'autres. Mais le gouvernement a d'abord été aussi persuadé de la pertinence des décisions à prendre. C'est pourquoi les décisions ont été prises.
Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres hausses ? La hausse sera progressive ou bien elle va s'arrêter ?
Je pense que, comme je l'ai dit tantôt au début, nous avons affaire à un service marchand qui a un coût pour être produit et dont, malheureusement, le coût de production ne dépend pas forcément des acteurs et ne dépend même pas souvent de notre marché. Il y a un ensemble de facteurs, de phénomènes et de paramètres qui concourent à faire fluctuer le coût de production. Mmh. Et puisque nous avons adopté stratégiquement dans les principes de la politique tarifaire la réflectivité des coûts de production sur les tarifs, nous serons amenés, chaque fois qu'il est nécessaire, de faire l'évaluation des besoins de financement, y compris à travers les tarifs ou les subventions ou d'autres moyens. Donc, dire qu'il n'y aurait pas d'autre augmentation, ce serait mentir. Ouais. Je ne crois pas que, en voulant bien gouverner, en voulant bien gérer, et il faille mentir sur des questions essentielles. Mmh. Il peut y avoir des augmentations. Mmh. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement, comme toujours, a toujours cherché à déployer les moyens et les stratégies les mieux appropriées pour faire en sorte que nous puissions soutenir le développement d'un secteur dont les contraintes s'imposent à nous. Chaque jour qui passe, il y a une nouvelle demande en termes d'accès à l'électricité. Parce qu'il y a une nouvelle vie, il y a peut-être une nouvelle activité économique. Et tout cela doit être alimenté par l'accès au service de l'électricité. Mmh. Et il nous appartient donc d'être le plus réactif possible, le plus prospectif possible et surtout le plus responsable en termes de décisions pertinentes à prendre.
Alors, Madame Koulibaly, quelle est l'alternative selon vous ?
Je pense qu'il nous faut essayer de voir de quelle manière on peut atténuer la dépendance extérieure avec les produits que nous utilisons actuellement et faire en sorte que nous puissions faire de gros investissements par rapport à l'énergie solaire, d'une part, et renforcer le partenariat avec la sous-région, notamment le Ghana, la Côte d'Ivoire et peut-être même la Guinée, pour que nous puissions faire un certain nombre de choses dans le cadre de la solidarité sous-régionale et nous sortir de ce carcan-là, parce que vraiment, ça devient quelque chose d'impossible à porter. Pour le développement du pays, on a besoin d'énergie, il ne faut pas se leurrer. C'est un élément essentiel, c'est stratégique.
Et par exemple, à ce niveau, le diatropha, il peut être amené à un niveau industriel.
Voilà. Donc, il nous faut...
je me trompe ?
Non, mais vous avez raison.
Il nous faut absolument trouver des alternatives pour réduire notre dépendance et à ce moment permettre à nos industries... Parce qu'en fait, nous, en tant que consommateurs, on veut que les industries maliennes se développent et occupent l'espace. On veut qu'elles soient concurrentes. Mais on voudrait aussi que les choses se passent de manière à ce que le consommateur ne soit pas toujours au bas de l'échelle.
La solution pour vous, ça fait longtemps que Babanda n'a pas parlé. On va lui donner la parole et puis on va vous faire réagir. Allez-y, solution selon vous.
Bon, la solution, elle doit être partagée. Elle doit être partagée. Il faut que l'effort que le gouvernement est en train de fournir actuellement, que les consommateurs aussi mettent la main à la poche. Et comme l'a dit madame également, nous à l'interne aussi, nous sommes aussi en train de faire pas mal de choses pour, comme on l'a dit, la réduction des charges. Tellement que la direction, depuis maintenant 2 ou 3 ans, est en train de jouer sur la réduction des charges, que nous, le syndicat, nous sommes même levés à un moment donné pour leur dire, si vous ne faites pas attention, vous allez nous essouffler. On allait être essoufflés. Pourquoi ? Parce que même actuellement, nous n'avons même pas les moyens pour pouvoir travailler convenablement dans la société. La preuve en est que, maintenant, pour dépanner un abonné qui est en panne, nous n'avons pas les moyens humains, les moyens pour aller vraiment dépanner un abonné qui est à 3 ou 4 kilomètres du point de...
Monsieur Touré va conclure juste en deux mots. Puisqu'il est déjà l'heure, oui.
D'accord, merci. Je vais rebondir sur la dernière question. Quelle autre alternative ? Je crois que c'est là tous les enjeux des stratégies et des politiques nouvelles de développement du secteur. Madame Koulibaly enfonce un peu, peut-être, une porte déjà ouverte grandement dans le cadre des stratégies en cours. Le gouvernement s'attelle aujourd'hui à faire en sorte que la fâcheuse tendance de l'accroissement vertigineux du thermique soit complètement renversée et même peut-être substituée par des sources d'énergie alternatives plus compétitives.
D'accord.
Et sans compter aussi parallèlement aux mesures stratégiques.
Merci, Monsieur Touré. On est obligé de rendre l'antenne puisqu'il est l'heure. Nous sommes donc au terme de ce débat sur la hausse du prix de l'électricité. Débat qui avait comme invité Mokhtar Touré de la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau, Koulibaly Salimata Diarra de l'ASCOMA, Association des consommateurs, Babandaou du Syndicat national de construction civile des mines et de l'énergie. Ce fut un plaisir pour l'équipe de vous servir. Moi, je suis Sira Batili. De l'autre côté de la technique, Peting Diarra et Salim Diouara, Ousmane Diarra Touré était à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.